Vous écoutez
RMC. RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
Jean-Christophe Drouet.
Bonjour à tous, les grandes gueules du sport, votre émission en direct le samedi, le dimanche de 9h à midi. Nous sommes très heureux de vous retrouver en ce dimanche matin. Bon réveil, bon petit déjeuner et on s'occupe du reste. Au sommaire aujourd'hui, les fesses rougies, les Marseillais reviennent sur le terrain ce soir à Nantes. Le crash face au PSG va-t-il laisser des traces? C'est la une des GG dans quelques instants. La bataille est féroce aux États-Unis à quelques jours de l'élection présidentielle. Les sportifs s'engage dans cette bataille entre Donald Trump et Kamala Harris. Faut-il espérer la même chose en France? C'est le bras de fer des GG à 10h, 11h. Mais qui voit réellement la Ligue 1? Le nombre d'abonnés famélique, les buts ne sont plus diffusés sur les réseaux sociaux. Le manque de visibilité va-t-il tuer notre championnat? Sans oublier la qualification d'Hugo Humbert pour la finale du Masters 1000 de Paris-Bercy. Peut-il devenir la nouvelle star du tennis français? En tout cas, Karen Khachanov n'a pas aimé son attitude. On en parle à 10h30. C'est la journée de la gentillesse, alors allons-y gaiement. Les grandes gueules du sport ce matin, une grande gueule qui, comme Kamala Harris, c'est le remplaçant du vieux croulant, Simon Dutin. Salut Simon.
Salut JC, salut Kamala, salut Christophe, du coup,
salut Christophe. Ça va Simon, t'es en forme?
Ça va, toujours ravi de démarrer le dimanche avec vous.
T'as encore envie de parler du Hugo Humbert?
Bien sûr, bien entendu.
On en a fait hier.
Il a été immense hier.
Exactement. Peut-être vas-tu changer ton avis d'ailleurs sur.
Ah, mais puisque tu n'as pas posé la même question, on en parlera plus tard.
Une grande gueule qui, comme Donald Trump, a déjà pris une branlée dans une élection. Cyril Linette, salut Cyril.
Et Trump a gagné aussi déjà.
Et Trump donc, a déjà gagné.
Tout est possible.
Donc tout est possible. La prochaine, c'est la vie.
La vie, c'est long.
Et Trump y retourne d'ailleurs. Hein.
Et Trump y retourne. Oui, ça c'est vrai.
Ça va, Cyril?
Oui, très bien. Oui.
Très heureux de te retrouver aussi dans cette
émission. Cette fois-ci. Dernière fois, j'avais un peu loupé.
J'avais prévenu, hein, c'est la journée de la gentillesse. Une grande gueule qui, comme Kamala Harris, elle doit débattre avec des boomers. Marie Martineau, salut Marie.
C'est tellement gentil. J'adore. C'est trop mignon.
Ça va toi?
Oui, ça va bien. Je te remercie, j'y sais. C'est plus facile de débattre avec les boomers que de débattre avec Simon Dutin. À chaque fois que c'est lui à la place de Christophe, je me dis ok, il va falloir t'accrocher, il va falloir être très très bonne.
Ok, j'ai l'impression que vous envoyez quelques messages.
On embrasse Christophe,
il passe une bonne matinée.
Que l'on retrouvera évidemment la semaine prochaine, les absents ont toujours
compris. Je flatte Simon.
Merci beaucoup.
Gentillesse, on a
parfaitement compris. Ah, et puis une grande gueule qui, contrairement à Donald Trump, il n'aurait pas dû se lancer dans les affaires. Jérôme Pinot, salut Jérôme.
Salut, à chaque fois tu m'en remets une couche dans celle-là.
Oui, c'est soit les affaires,
j'ai que ça va
soit
durer. Soit le topal, soit les affaires.
Il a ses petites chapelles. Bien
à savoir que Donald Trump est loin d'être une grande réussite dans les affaires. Hein,
comme moi, quoi.
Oui, enfin.
Bah, ça
oui,
va
mais
quand même.
À l'inverse de Donald Trump, alors peut-être aurait-il dû dire comme Donald Trump? Enfin, je dis ça, je dis rien.
Oh là là.
Ok.
On peut réécrire les vannes, c'est ça, dans cette émission? C'est comme ça, on veut devenir auteur pour les grandes gueules du sport?
Non, c'est la preuve que je t'écoute, mon JC, parce que je t'aime et que j'écoute ton travail.
Eh bien, ça, c'est très gentil à toi. Mmh. Tout va bien, Jérôme?
Ça va très, très bien.
Ça va.
Grande forme, ça va.
Parfait. On parlera peut-être de Lance Armstrong, on n'aura pas beaucoup le temps.
Ah, avec plaisir.
Un ami Trump qu'on embrasse également.
Tiens, à cœur, chaque émission. Non, Cyril, ne regarde pas sur le conducteur, on n'en parlera pas normalement. Christian Latour a dit un jour, un accident n'arrive qu'à quiconque veut inconsciemment le vivre.
RMC, la une des grandes gueules du sport.
Le dédoublement Nuno Mendes dans le dos de Murillo, le centre de Nuno Mendes, Rulli qui la touche, la frappe et le but, et le but, et l'ouverture du score. Ballon relâché par Rulli.
Allons, pas de désespoir, il y a encore plus grave que ça.
Oh le rouge, carton rouge pour Harit.
Oui.
C'est dur de mettre un rouge là-dessus.
Non, c'est pas grave, Pierre, je n'ai rien senti.
Et le but, c'est le but pour le Paris Saint-Germain, 29e minute, mais quelle cagade de la part de Balerdi. Ouh, comme dans du beurre, le Paris Saint-Germain à 11 contre 10. Le troisième but du Paris Saint-Germain signé Barcola.
Qu'est-ce qui vous a pris? Qu'est-ce que c'est que cette folie collective?
Coup de sifflet, voilà qui est fait, terminé. Ici, au Vélodrome, qui va certainement gronder, qui va siffler également après cette défaite de l'Olympique de Marseille face au Paris Saint-Germain. Paris s'impose encore une fois ici. Au Vélodrome.
J'en peux plus. Oh, je vais dormir comme une masse.
Il y a une semaine, à cette heure-là, tout Marseille se prenait à rêver de punir enfin le PSG à la maison, à rêver de jouer à touche-touche avec les Parisiens jusqu'à la fin de la saison. Quelques heures plus tard, l'OM, vous le savez, est revenu sur terre, triste réalité, 3-0, impuissance totale, comme depuis trop longtemps, et de l'aveu des joueurs, hein, cette semaine, ils ont tous eu une longue le gueule de bois. Le rebond peut-être, c'est ce soir à Nantes. La musique qui fout les jetons. Et cette question. Le crash face au PSG va-t-il laisser des traces? Oui ou non? Cyril Linette.
Non, en tout cas, il faut pas.
Non. Jérôme Pinault.
Oui, malheureusement, oui.
Simon Dutin.
Non.
Marie Martineau.
Oui.
J'ai deux oui, deux non. Avant de débattre, on va écouter Roberto De Zerbi. C'était en conférence de presse juste avant la rencontre face à Nantes. Et il reconnaît évidemment les difficultés de ces derniers jours.
Cette défaite contre le PSG, avec toute l'importance du match et sa physionomie, a été difficile à digérer. Ça nous a pesé, pas seulement lundi, mais les jours suivants. Mais les garçons se sont bien entraînés. On tient à aller de l'avant, même si personne ne voulait que le match se passe de cette façon.
Le crash face au PSG va-t-il laisser des traces? Le 32-16, le hashtag RMC Live, l'application RMC Direct Studio. On commence avec un oui. Jérôme Pinault, pourquoi oui?
Oui, parce que c'était déjà le premier rendez-vous. On a fait monter la sauce depuis le début de l'année. On attendait ce match avec impatience. On s'est dit que peut-être cette année, avec un Paris Saint-Germain qui est pas au-dessus de la mêlée, on pensait Marseille capable de rivaliser. On pensait Monaco aussi en même temps. Mais ce match-là était le match attendu. Et puis, au bout de 5 minutes, patatrac, on a compris qu'il y avait encore un large fossé. Et je pense que les Marseillais eux-mêmes, à l'image de leur public qui a quitté en partie le stade à la mi-temps, les Marseillais, les joueurs, le staff, ils croyaient eux-mêmes. Et je pense qu'après ce match-là, ils ont pris un grand coup sur la tronche. Alors, est-ce qu'ils vont faire sur le podium? Je dis pas qu'ils peuvent pas, mais en tout cas, la rivalité avec Paris, il n'y a pas, il n'y a plus. Et ça, ils ont pris un coup sur la tête, d'autant plus qu'on connaît quand même tous très bien ce club, en tout cas de l'extérieur. On sait que la moindre petite chose allume une étincelle et ça peut péter à tout moment. L'immunité de Zerbi va-t-elle durer? Est-ce qu'on va pas remettre en cause plein de choses? On a déjà l'affaire Papin cette semaine. À mon avis, c'est un vrai tournant et il n'attendait pas dans ce sens-là le tournant, je pense.
Ok, c'est un vrai tournant pour toi. Cyril Linette.
Il peut laisser des traces, mais il ne doit pas laisser de traces, pour revenir sur votre question. Et Pablo Longoria, c'est son boulot. Il peut pas avoir donné, il y a une dizaine de jours, une très belle interview dans l'équipe dans laquelle il a dit fini le court terme. Je me suis souvent précipité. Il a fait un vrai mea culpa. C'était super intéressant. Je travaille sur 3 ans. J'ai compris qu'il fallait pas moi-même que je sois dans le match d'avant et le match d'après parce qu'il était beaucoup trop court-termiste et interventionniste. Et puis, laisser la situation dériver. L'OM est moins fort que le PSG, c'est un fait depuis des années. La vraie difficulté, à mon avis, du Classico, c'est que les Marseillais se mettent une pression énorme pour jouer ce Classico, mais les Parisiens aussi. S'il y a bien un truc qui reste de l'ADN du PSG d'avant, c'est que ça. C'est-à-dire que les joueurs du PSG ne sont pas forcément hyper mobilisés par la Ligue 1 à chaque fois, sauf contre l'OM. Ils ont compris vis-à-vis de leurs supporters qu'il fallait le faire. C'est pour ça qu'ils ne leur laissent aucune chance depuis 13 ans et qu'ils affichent le pire bilan, je pense, l'OM, de tous les clubs de Ligue 1 face au PSG. C'est pas un hasard. Donc ça, il faut mettre ce sujet de côté. Je pense que la responsabilité du club, et je suis d'accord, l'histoire Papin, enfin, tout ça, ça compte. Je minimise pas du tout l'environnement. La responsabilité de Pablo Longoria et de ses équipes, c'est vraiment le test. C'est de faire en sorte que ce match soit à nouveau arrangé dans le rayon, malheureusement, des choses logiques. C'est-à-dire, l'OM n'est pas au niveau du PSG, mais il faut reprendre la saison.
Ce qui risque de laisser des traces aussi, Cyril, c'est le fait du comportement des joueurs.
Ouais, c'est ça.
De l'attitude. Comment peut-on expliquer à un public, à une France entière qui attendait, une partie de la France attendait ça, le comportement dès le départ du jeu? Oui, mais
l'adversaire,
t'as perdu un match et t'as laissé couler. T'as l'impression que cette envie que l'on pense être marseillaise, c'est-à-dire que cette envie d'aller à l'Agnac, de tout renverser, du petit contre le grand, finalement, c'est Paris qui l'a montré.
Marseille leur a laissé aucune chance. Et souvent, dans les commentaires de match, j'entends souvent ça. J'entends souvent, ils sont pas allés au charbon, ils sont pas allés suffisamment. Mais il y a un adversaire en face. Quand le PSG se met dans ce mode-là, on l'a vu sur les 20 premières minutes, qui consiste à dire techniquement, on fait pas une erreur, on les prive de ballon, et que vous avez la malchance de prendre un but, puis après un carton.
C'est donc significatif du fossé qui est
le match aurait
présent entre les deux.
Tu vois, Cyril, c'est là où je me dis que toi, en tant que spécialiste du foot, tu vas avoir une tendance à vouloir défendre cette équipe de Marseille. Mais moi, si j'ai regardé un petit peu sur les réseaux, et même les supporters l'avaient vraiment mauvaise toute la semaine. Tu vois, et c'est là où je me dis que ça va être compliqué pour eux de se relever parce que ils leur trouvent aucune excuse.
Ils sont durs, ils leur trouvent
pas d'excuse, quoi. J'ai lu des trucs du type équipe sans courage, équipe sans personnalité. Et c'est vrai que ces images catastrophiques d'un stade complètement vidé à la mi-temps, c'est.
Pas complètement vidé, mais en tout cas, les supporters qui quittent le stade.
Tous ces sièges blancs et tout, c'est lourd de sens, quoi. Marie. Et ça, faut s'en relever, tu vois. Et si tu les excuses, ça va pas être évident pour eux.
Je l'ai toujours dit, diriger l'Olympique de Marseille, c'est le job le plus dur, je pense, du foot. foot en France. C'est le job le plus dur parce que vous êtes à la tête d'une communauté qui ne peut vivre qu'une frustration. C'est la pire situation possible parce que non seulement l'OM ne peut plus aujourd'hui, c'est une question de moyens, ne peut plus envisager le titre de champion, mais en plus celui-ci revient tous les ans au club Oni. Et donc une ville qui se vit comme la capitale du foot l'est peut-être d'un point de vue ferveur, mais ne l'est plus d'un point de vue palmarès, et depuis longtemps. Donc c'est très dur, et je suis d'accord, cette déception, elle est à la mesure de la passion de cette ville qui s'enflamme, et des médias et aussi qui s'enflamment.
Cette équipe vit avec son public, cette équipe vit par sa nature.
Mais d'autant plus parce qu'il y a un ascenseur émotionnel qui a été hyper vexant.
Ça a duré 5 minutes.
Et justement, je voudrais revenir là-dessus.
C'est vrai.
Parce que on parle de mental quand on dit est-ce qu'ils peuvent se relever, est-ce que ça va laisser des traces, c'est forcément dans le mental des joueurs. Avant la rencontre face au PSG, peut-être que nous médias on les avait conditionnés, mais forcément eux s'étaient conditionnés en se disant bah cette année c'est peut-être la bonne. Et là en fait, en l'espace de quelques heures, ils se disent
là, j'y sais.
Non mais ils se disent bah non, comment on se relève dans une semaine comme ça, est-ce qu'on peut imaginer que l'OM n'est plus la même fin parce qu'ils se disent en fait
tu vas jouer à Nantes le dimanche d'après.
En fait, on joue plus la première place, on joue pour être le meilleur derrière le Paris Saint-Germain. Ça change quelque chose dans un sportif de haut niveau.
Moi, je pense qu'on s'est inquiété parce que on s'est inquiété toute la semaine parce que on s'est emballé un petit peu avant. Voilà, on a vu en effet les Marseillais, on a voulu voir les Marseillais capables d'aller chercher Paris. On est comptable de ça, nous, les médias, parce qu'on veut évidemment cette rivalité.
Ben oui.
On veut un De Zerbi qui transforme tout d'un coup l'OM d'un coup de baguette magique. Greenwood, Brassier, Rabiot, Mopé, Wai, Rowe, Cornelius, Rouli, faut intégrer tous ces mecs-là. Faut pas oublier que l'effectif a énormément changé. De Zerbi, c'est un mec qui, je pense, a une vision non pas courte mais qui s'est engagé sur un projet. On n'oublie pas, tout c'est impensif dans notre business, tout va très vite à Marseille. S'il gagne ce soir, il passe deuxième de Ligue 1. S'il gagne à Nantes, bon, si demain il se réveille en étant deuxième devant Monaco du championnat, je pense que tout va se calmer.
Alors pour le coup, les résultats de hier vont peut-être
justement, il y a l'effet de loupe de cette rivalité, ce match contre Paris, évidemment, qu'on attendait. On n'oublie pas que le match n'a eu lieu que durant 20 minutes. Alors 20 minutes durant lesquelles le PSG a été exceptionnel, a roulé sur un OM qui n'était pas au niveau et qui aurait certainement perdu cette rencontre sans la décision arbitrale qui a quand même...
refait pas le match. Hein.
Non mais d'accord, mais sauf que tu peux aussi te dire dans la semaine qu'à 11 contre 11, il y avait moyen de tirer le frein à main tactiquement, de changer quelque chose et de répondre à ce que Paris proposait. Sur les 4 derniers matchs, 2 défaites, 1 nul, 1 victoire. Bon, tu soulignes avec justesse, Jérôme, que l'AS Monaco vient de se faire taper par Angers en faisant un match catastrophique, enchaîner 2 défaites de suite, ça arrive à tout le monde. Monaco, toute la semaine avant la rencontre contre Angers, on disait
oui,
t'avais les deux petits Ben Seguir et Akliouche qui disaient oui, nous on peut aller chercher Paris, et ça dérangeait personne. Donc un Greenwood qui referait un bon match, j'ai lu dans la Provence qui disait ce serait bien qu'il arrête de boire le café quand le latéral gauche dédouble. Bon, il est dans la ligne de mire parce qu'il était à un niveau stratosphérique depuis le début de saison. Il faut montrer de l'engagement, il faut montrer qu'on respecte les couleurs, et si ça gagne à Nantes aujourd'hui qui sont deuxième demain, plus personne ne sera inquiet à Marseille.
Ok, on continue le débat dans quelques instants. Appelez-nous évidemment supporters marseillais au 32-16. Est-ce que vous avez peur? Oh oui, la France a peur, Marseille a peur pour cette rencontre ce soir à Nantes. Venez nous dire ce que vous en pensez, et puis j'aimerais aussi avoir l'avis de notre expert mental pour justement savoir comment les joueurs peuvent se remettre après justement cette grande désillusion de la semaine dernière, parce que vous entendrez un joueur marseillais, vous comprenez, vous allez comprendre que c'est difficile. À tout de suite sur RMC.
RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
Jean-Christophe Drouet.
9h28, de retour dans les grandes gueules du sport avec Marie Martineau, Cyril Linette, Jérôme Pinault et Simon Dutin. Je vois que la réalisation est à l'américaine. À chaque fois, nous sommes sur le coup. On parle de l'Olympique de Marseille. Donc forcément, nous avons des outils adéquats pour vous faire comprendre que nous parlons de l'Olympique de Marseille. Dans une dizaine de minutes, on s'en fout pas, avec beaucoup d'informations à vous donner. Et notamment, les Lensois qui ont critiqué l'arbitrage contre le Paris Saint-Germain hier. Vous me direz ce que vous en avez pensé. Et puis je vous le redis, dans cette émission, nous parlerons d'Hugo Humbert, des élections américaines avec les sportifs qui s'engagent, ou encore de Max Verstappen. Restez bien avec nous. Mais restons un instant sur notre débat. Le crash face au PSG va-t-il laisser des traces? On parle de l'Olympique de Marseille qui affronte ce soir Nantes pour cette 10e journée de Ligue 1. Et je vous propose d'écouter Luis Enrique, pas celui qui n'aime pas les médias, hein, le joueur de l'Olympique de Marseille. Vous allez voir, ils ont passé une semaine difficile.
Foi difícil pra gente, depuis le jogo.
Ça a été très difficile pour nous après ce match, y compris dans le vestiaire. C'était difficile de parler entre nous. Il faut tourner la page et montrer ce que l'on est capable de faire sur le terrain et montrer qu'on est capable de reprendre le dessus.
Con certeza, a gente tem que dar uma resposta rápida.
Nous devons donner une réponse le plus rapidement possible, pas seulement pour nos supporters, mais aussi pour nous, pour qu'on puisse gagner en confiance et montrer que nous avons un objectif pour cette saison et que cela n'aura pas d'impact. Il faut oublier ce qu'il s'est passé. Il faut tourner la page et tout donner pour les prochains matchs.
Et continuer à focaliser notre objectif là en front.
Marie Martino, c'est souvent un peu tarte à la crème. On dit, il nous arrive comme ça, quelque chose, un résultat imprévu, et on se dit, il faut vite tourner la page, il faut vite oublier. Un, est-ce que c'est la bonne solution? Et deux, est-ce que c'est si facile que ça à faire ou c'est juste de la com?
Bah, ça dépend déjà de comment ce match-là a été envisagé en amont. Parce que suivant la manière dont tu l'as positionné et quel objectif tu en as fait, et ben, ça va être plus ou moins difficile de passer à la suite. Après, il y a le fait qu'il y a des gens qui sont intrinsèquement plus capables de faire ça, de balayer, de mettre derrière, de regarder devant, et d'autres qui le sont moins. Donc quand tu es une équipe, c'est d'autant plus compliqué parce qu'il va falloir que tout le monde s'aligne sur la même vision et la même envie. Donc je pense qu'il y a une grosse responsabilité de management, du coach, et je ne connais pas assez De Zerbi pour savoir quelle influence il peut avoir sur son groupe à ce moment-là. Mais c'est sûr que c'est hyper compliqué parce que avec tous les outils que tu peux avoir en prep mental, il n'empêche qu'il y a des blessures qui font mal, il y a des choses qui marquent, il y a des nuits qui où tu dors pas bien suite à ça et qui ont un impact sur tout un tas de choses derrière, le physique. Donc je pense que ce soir on aura un peu plus d'éléments de réponse, et a priori heureusement qu'il joue contre Nantes, un Nantes qui est
un facilitateur de remise en route.
Nantes a un beau joueur en ce moment, c'est très compliqué.
On aime relancer les équipes un peu en difficulté.
On rappelle que Jérôme Pinault est supporter du FC Nantes et un peu de
et beaucoup de l'OM.
Et un peu de l'OM. Oui, tu voulais ajouter.
Non, je voulais ajouter un truc important, c'est aussi le fait que ce groupe est jeune, tu l'as dit, ce groupe est nouveau, et quand on fait de la prep mentale, quand on fait du suivi mental, tu le sais mieux que moi Marie, on a besoin d'expérience, de temps, de data, de comprendre l'homme pour aller chercher les petits leviers, et là, il en a pas, et c'est un groupe très jeune avec des leaders de terrain et des leaders de jeu qu'il connaît à peine, en tout cas, faut connaître l'homme là, faut pas connaître le joueur. C'est là où la difficulté se fait, et surtout ce langage. Moi, ce que je retiens de Luis Enrique, ce qu'il vient de nous dire, c'est on savait pas quoi se dire dans le vestiaire. Les mecs, c'est là maintenant, il faut se parler, se dire les choses là, et comment se parler, quoi se dire, pour pas, tu sais pas qui est le mec d'à côté, et qu'est-ce que je peux lui dire pour le relancer et pas l'enfoncer.
Mais peuvent naître aussi à ce moment-là, sur un coup dur comme ça, peuvent naître des personnalités qui tu vois, qui se révèlent et qui deviennent des leaders. Et ça, il peut se passer vraiment des belles choses humaines.
Et toi,
il y a la fierté, il y a l'humiliation que tu as subie, il y a peut-être en effet la volonté de pas passer des moments trop difficiles quand tu vas faire tes courses. Enfin bon, t'as envie de te rassurer juste sur ton niveau de performance, sur ton environnement, la relation avec tes supporters. Il y a des choses qui mentalement vont leur faire du bien. Le retour de Merlin, qui est fondamental depuis, enfin, qui était exceptionnel depuis le début de saison, qui fait son retour. Il y a en effet un Greenwood qui est passé complètement à côté après avoir été encensé, qui va vouloir montrer que c'était pas ce qu'on a coutume d'appeler un feu de paille et qu'il peut être le leader de cette équipe après tout ce qu'on a dit sur lui. Donc des ressorts comme un psychologique, ils existent, cette volonté de se relancer, de montrer qu'on n'est pas des pimpins, qu'on a le niveau pour au moins dominer le championnat qui concerne les 17 autres équipes de la Ligue 1. Donc je pense que des ressorts sur lesquels De Zerbi a pu appuyer cette semaine, il y en a quand même.
Est-ce que là c'est le rôle d'un président, toi, qui évidemment les a côtoyés, c'est le rôle d'un président de dire ok, de dédramatiser ce qui s'est passé.
Le président c'est le patron de toute façon, et on commence toujours par un escalier, on le balaye toujours par en haut. Donc le premier travail à faire dans la semaine, c'est le travail du président. On a vu Pablo Longoria, on a vu une image furtive à la fin du Classico, il était défait. On sait pourquoi. C'est un type très émotif, qui est passionné. Il explique très bien cette interview dans l'équipe d'il y a 10 jours. Je vous invite à la relire pour ceux qui l'ont pas vue. Il explique ce que c'est qu'un passionné de foot qui devient président et qui apprend justement à sortir un peu du court terme. Le rôle de Pablo Longoria cette semaine a été probablement effectivement de renforcer son entraîneur, de le rassurer, de lui dire t'as ma confiance, c'est pas un match, on est là pour, j'espère, plusieurs années ensemble, ce qu'il a pas démontré jusqu'à présent, et puis de rassurer l'environnement. C'est là que l'histoire de Papin, ça aide pas, parce que ça vient un peu impacter. On sait bien que voilà, Jean-Pierre Papin c'est une légende, donc Pablo Longoria, même si l'objectif peut-être la performance de Papin, il aura jamais complètement raison face à un environnement marseillais, face à une légende comme JPP. Donc je pense que c'est des choses de management qui sont difficiles à faire. Ils doivent avoir avoir hâte que le match de Nantes se passe. Et s'il le gagne, il pourra reprendre.
Là, y a pas le droit. En revanche, il n'y a pas le droit à l'erreur ce soir. On rigole. Moi, je dis que Nantes est un club qui relance bien les gens en difficulté. Si ce soir, il y a contre-performance de nouveau, entre l'affaire Papin qui va continuer.
Et pas droit à l'erreur sur l'affaire Papin, donc qui doit trancher demain, puisque je crois que c'est demain.
Et tu sais mieux que moi que c'est quand même plus qu'une affaire Papin. C'est une affaire Mehdi Bennassia et son clan et les anciens de Marseille.
Oui, mais alors il n'est pas interdit. On sait que le domaine purement sportif ait été justement un petit peu épargné parce que tout le monde a regardé justement sur cette du côté de Papin, Zarac, Longoria, que va-t-il se passer? Peut-être que De Zerbi a pu bosser un peu plus tranquillement.
Ce qu'il faut surtout éviter, c'est que la contre-performance et que tout le monde se cache derrière toutes ces petites histoires et qu'on oublie le terrain, que les joueurs oublient de refaire leur métier et de performer ce week-end. Parce que de toute façon, et quoi qu'il arrive dans n'importe quel club et dans n'importe quel sport, le résultat du match d'après, de la compétition d'après, fera oublier en grande partie, s'il est bon, ce qui s'est passé avant. Donc le meilleur moyen pour réussir et pour sortir de ça très vite, même si tout sera pas guéri, c'est de gagner ce soir.
Mais l'analyse, c'est quoi? C'est des individualités dans cette équipe qui n'étaient pas à la hauteur du rendez-vous, ou c'est la proposition tactique de De Zerbi qui n'était pas la bonne?
D'où mon interrogation sur jusqu'à quand l'impunité de De Zerbi, jusqu'à quand on va lui laisser
l'impunité,
plein pouvoir.
Il est là depuis deux mois, l'impunité.
Non mais Cyril, là, aujourd'hui c'était un génie jusqu'à dimanche. Non. On a dit il est en train de faire jouer l'OM, mais ça va changer. Ok, là dimanche, premier gros match. Forcé de constater qu'il s'est trompé quand même.
Mais ce sont les médias, l'environnement, les médias qui ont les yeux de l'amour pour l'OM, les médias qui, comme l'a dit Simon, attendent tous enfin que le PSG soit plus dominant. Vous attendez tout ça à longueur d'émission. Mais ça, c'est les médias et l'environnement marseillais. De Zerbi, c'est un entraîneur qui n'a pas une expérience extraordinaire, qui n'a rien gagné pour le moment. C'est un choix fort de Pablo Longoria qui dit maintenant, je suis là, je ne veux plus changer d'entraîneur tous les ans. Si on commence à le fragiliser parce qu'il a perdu contre le PSG, qui a évidemment un background et des performances bien supérieures à l'OM, l'OM va pas s'en sortir. Ouais. Là, ce serait effectivement catastrophique.
Ouais, mais bon, là. Et c'est De Zerbi parce que c'était un entraîneur très convoité, que les hipsters du foot nous vendent comme un génie absolument révolutionnaire.
Mais pour l'instant, il n'a pas encore un palmarès, il n'est pas complètement assis sur une.
D'accord, mais je veux dire, ça paraissait inespéré de l'attirer.
Oui, c'est sûr.
Quand tu remontes un poisson comme ça dans le bateau marseillais, tu ne sais pas pour le vider au bout d'une défaite face
à. Oh, tu sais. C'est déjà arrivé. Il y a Laurent qui nous appelle au 32-16, supporter marseillais. Il veut intervenir dans cette émission. Bonjour Laurent.
Bonjour.
Salut Laurent. Bon, la question initiale, c'était le crash face au PSG. Va-t-il laisser des traces? Tu en penses quoi?
Alors, ça fait 35 ans que je supporte ce club. À 10 journées de championnat, si on gagne ce soir, on est à 20 points. On est deuxième du classement. Ouais. On a fait 10 journées. On a joué 4 fois en infériorité numérique. Il n'a pas aligné une seule fois la même défense en 10 journées. J'ai connu des saisons beaucoup plus pénibles. Mmh. En tout cas, des débuts de saison beaucoup plus pénibles. Vous venez de tomber sur De Zerbi en parlant de hipster, etc. Alors, si Guardiola est un hipster du football, parce qu'il dit de lui que c'est. Alors oui, effectivement, pour l'instant, on n'a pas vu la patte. Oui, avec quelle équipe? Avec quelle équipe? Avec Brighton? Avec Sassuolo? Compliqué de gagner des titres avec Brighton et Sassuolo.
Ok, oui, Laurent, c'est
une expression que j'aime bien, c'est parce que justement, c'est les gens, tu sais, qui jouent à Football Manager ou à ces jeux de simulation et qui.
Mais Sassuolo et Brighton, c'est les clubs qui l'ont.
Slovaque, ou alors,
c'est les clubs qui l'ont recruté, Sassuolo et Brighton. Pour le moment, il entraînait Sassuolo et Brighton, c'est parce que ni le Bayern, ni Real Madrid, ni Liverpool, ni personne ne lui a proposé un club supérieur. Donc, c'est encore un jeune entraîneur, prometteur.
Et à mon humble niveau de connaissance, je suis admiratif de ce qu'a proposé De Zerbi à Sassuolo et lors de sa première saison à Brighton. Mais c'est simplement que parfois on t'explique que tel joueur qui a fait une seule saison ou tel entraîneur qui s'est révélé dans tel club, bon voilà, c'est la solution à tous les problèmes de tous les clubs en Europe. Bon voilà, De Zerbi, il doit encore faire ses preuves à l'étage supérieur et moi je ne le critique pas, je considère que c'est une chance inespérée pour l'OM de l'avoir attiré.
Laurent, pour terminer.
Ouais, juste pour finir, on est. On dit de nous qu'on est impatient, etc. Et là, on est en train de, entre guillemets, fragiliser De Zerbi. Donc, essayons pour une fois de retenir les leçons du passé, de le laisser travailler tranquillement et de faire le point déjà à mi-saison quand il aura récupéré. Vous en avez parlé tout à l'heure, par exemple Merlin, qui est entre guillemets indispensable à son schéma tactique, et essayons de finir un match à 11 au moins ce soir pour voir ce que ça donne.
Oui, c'est toujours mieux, hein, mais bon, ça vous a pas empêché de gagner à Lyon même à 10, hein, mais tu as raison, c'est toujours mieux à 11.
Le match, on peut le jouer 100 fois, on le perdra 99 fois.
Bon.
La foudre est tombée au Groupama Stadium, tant mieux pour nous, mais ça marche pas.
Tu sais quoi, Laurent, on est d'accord avec toi, ouais, promis, ouais. Nous médias, on sera patient avec Roberto De Zerbi, on va attendre un match.
Il faut attendre trois, il faut attendre 4 journées. Dans 3 journées, tu joues Lens à Lens, et dans 4 journées, tu joues Monaco à domicile. Donc là, tu vas savoir.
Allez, merci Laurent d'avoir composé le 32-16. Le match est ce soir 20h45 pour clore la 10e journée de Ligue 1, et c'est à suivre évidemment sur RMC à partir de 20h. Coup d'envoi 20h45. On se retrouve dans quelques instants pour le zapping des GG, avec notamment des Lensois très agacés par l'arbitrage hier. À tout de suite.
RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
Jean-Christophe Drouet.
9h43, de retour dans les grandes gueules du sport avec ce matin Marie Martineau, Cyril Linette, Jérôme Pinault, Simon Dutin. À partir de 10h, les élections américaines. Quoi dans les grandes gueules du sport? Eh bien oui, parce que les sportifs s'engagent dans cette bataille entre Donald Trump et Kamala Harris. Faut-il espérer la même chose en France? On ouvre le débat à partir de 10h. Vous pouvez réagir au 32-16, et à 10h30, on parlera d'Hugo Humbert qualifié pour sa première finale en Masters 1000. 10h45, évidemment, les GG contre-attaquent. Vous, les grandes gueules, vous prenez les commandes de cette émission en nous proposant un débat soumis au vote sur le compte X des grandes gueules du sport. À vous de convaincre l'Assemblée, à vous de convaincre les millions d'auditeurs qui nous écoutent. C'est pas facile, hein. 20 secondes pour les convaincre. Marie Martineau, tu veux parler de quoi?
Allez, bah justement, tu parles d'athlètes qui s'engagent. Et bien justement, je voudrais vous parler de Cathy Wood, qui est un exemple. C'est une footballeuse qui joue pour Southampton et la Nouvelle-Zélande, et qui est très branchée climat et biodiversité. Pour le coup, il y a pas mal d'athlètes qui s'engagent dans les associations en lutte en faveur du climat. Elle a officiellement, sur pas mal de réseaux et en vidéo, demandé à la FIFA de renoncer à son partenariat avec la compagnie pétrolière saoudienne Saudi Aramco. Ma question est très simple. Est-ce que les fédés internationales, est-ce que les organisateurs d'événements doivent commencer à se pencher sérieusement sur les partenaires avec lesquels ils signent, pour l'unique raison économique, et en renonçant à toutes les à côté de ces marques-là?
Excellent sujet. Beaucoup trop long, Marie, attention.
J'ai essayé de faire hyper court, c'est long. Oui. Expliquer, hein. On parle de Cathy Wood, qui est absolument pas connue, pour aller jusqu'à une compagnie pétrolière saoudienne, c'était pas très simple.
Bien. Si je puis me permettre, si Marie gagne pas, elle a peut-être gagné, mais c'est un super sujet quand même à noter.
Cyril, vous allez voir, il a envie de voter pour tous les sujets.
C'est tout l'aveuglement du sport parfois par rapport à ses partenaires. C'est un super sujet pour les années qui viennent.
Simon Dutin.
Je vais revenir sur la polémique qu'a suscité l'attribution du Ballon d'Or à Rodri et non pas à Vinicius, qui était l'immense favori, l'attaquant brésilien du Real Madrid, qui s'est fendu d'un petit commentaire sur les réseaux sociaux après la cérémonie. Il a dit j'en ferai 10 fois plus si nécessaire. Ils ne sont pas prêts. Alors du coup, tout le monde a voulu connaître la signification de ce message, et son entourage a précisé à l'agence Reuters que on parlait de sa lutte contre le racisme dont il est fréquemment victime dans les stades en Espagne. Le monde du football, a déclaré son entourage, n'est pas prêt à accepter un joueur qui se bat contre le système. Voilà, je voulais demander aux grandes gueules si elles pensent que c'est un argument qui se défend pour expliquer sa défaite au Ballon d'Or, ou si elles trouvent ça un petit peu grotesque.
Ok, Jérôme Pinault, tu proposes
quoi? Ça va être un peu moins profond, hein, mais cette semaine a eu lieu la présentation du Tour de France au Palais des Congrès. Remco Evenepoel était absent de cette cérémonie, 3e du dernier Tour de France, et à la suite du parcours, Remco va à l'encontre de son patron qui le voyait lutter pour regagner le Tour de France cette année. Ben non, Evenepoel a choisi d'aller sur le Giro et de viser les étapes sur le Tour pour éviter un ogre, Tadej Pogacar. Est-ce que, moi j'ai envie de débattre sur le fait que, est-ce que c'est déjà une résignation? Est-ce qu'il a déjà baissé les bras?
Ok, Cyril Linette.
PSG Rodez vendredi soir. Paris Football Club Rodez, justement. Paris Football Club Rodez vendredi soir à Charletti. Bagarre entre supporters du Paris Football Club à l'issue du match. 7 interpellations, 4 blessés à l'arme blanche. Et ma question, puisqu'on a vu ce que le PSG avait dû faire comme ménage avant l'arrivée du Qatar, le football populaire, comme le veut le PFC, de haut niveau, c'est-à-dire avec un curseur en première division, on parlera beaucoup plus du club, est-il possible à Paris ?
Ok, allez voter. Quatre très bons débats, allez voter sur le compte X des Grandes Gueules du Sport. Tout de suite, on s'en fout pas.
RMC, le zapping des Grandes Gueules du Sport.
Plusieurs informations à vous donner, l'actualité de la semaine de ces dernières heures. À vous de me dire si ça vous intéresse ou non. Si tout le monde s'en fout, vous connaissez le principe, on zappe l'information. Et si vous me dites je m'en fous, vous n'avez pas le droit à la parole. Première information dans le zapping des GG à vous donner, c'est la victoire du PSG hier face à Lens et des Lensois très agacés. On s'en fout pas. Simon Dutin.
On s'en fout pas.
Marie Martineau.
Sans moi.
Donc on s'en fout. Jérôme Pinault.
Non, on s'en fout pas.
On s'en fout pas. Cyril Linette.
Non, on s'en fout pas.
C'est le premier écart dans ce championnat. Après sa victoire hier face à Lens 1-0, le PSG compte désormais 6 points d'avance sur l'AS Monaco. Un match tendu en témoigne. Vous l'avez certainement vu, les échauffourées à la pause dans le tunnel entre Luis Campos et certains Lensois. Des Lensois qui ont terminé à 10 et 13 agacés par l'arbitrage qu'ils estiment pro-parisien. Au total, un carton rouge, 4 cartons jaunes, 20 fautes sifflées contre Lens, 3 fautes sifflées, pardonnez-moi, seulement contre Paris. Le coup de gueule après la rencontre de Kevin Danso, pardonnez-nous pour le son, je sais, c'est de la radio, mais visiblement, on était dans une cave.
Ouais, c'est ça le match, je te joue à Paris, c'est quand tu es dès que tu changes joueur de Paris, c'est faute, c'est toutes les choses, toutes les petites choses, c'est toujours pour Paris, mais on accepte, on sait, c'est ça, mais quand même, c'est un peu chiant.
Voilà, c'est un peu chiant. Quand on touche un joueur de Paris, bah c'est toujours faute, c'est comme ça. Il va falloir s'y faire. Vous en pensez quoi ?
Bah, j'étais au match. Non, les lancements. Alors, c'est Will Smith, c'est Will Steele, c'est sa préparation. Hein. Il prépare son équipe. Il l'avait expliqué une fois. La semaine du match contre le PSG, il les fait des entraînements dans lesquels l'arbitrage est pro adversaire pour les préparer au Parc des Princes. Donc, il entretient une forme de parano absolue au moment de jouer au Parc des Princes. Donc, c'est pas très étonnant que ces joueurs soient là-dedans. Je pense que c'est l'explication finale. Au final, il n'y a pas grand-chose à dire sur l'arbitrage du match d'hier soir, mais c'est vrai que l'entraîneur de Lens levait les bras pratiquement à chaque touche sifflée en faveur du PSG, quoi. C'est-à-dire que dès la première minute du match, il était déjà dans un registre déclamatoire, donc ça joue, je pense, sur son équipe. Ça a failli marcher, hein, parce qu'au final, même dominé, ils perdent que 1-0. Donc, bon, après, c'est du management.
Ok, très bien. Très bonne analyse, parce que c'est vrai, quand il était à Reims, il le disait, il préparait à chaque fois ses ambiances hostiles.
Il le fait dès la première seconde.
Pour rebondir sur ce que dit Cyril et compléter ce que dit Cyril, quand il était à Reims, rappelez-vous le reportage en Inside où il dit à ses joueurs « De toute façon, l'arbitre sera contre nous, donc on se tait, on joue, n'attendons rien de l'arbitrage ». Il déclare ça à ses joueurs quand il est à Reims. Et là, hier, c'est lui qui met le feu. Et s'ils regardent bien les images, et aujourd'hui, ils vont avoir un peu de repos, ils vont regarder les images. C'est pas carton rouge hier, c'est carton double carton rouge, enfin, violet le carton rouge déjà, donc… Non, ils jouent dur, ils prennent des cartons, c'est normal. Et je pense que effectivement, l'entraîneur a été le premier instigateur de cette.
C'est son mode de management, mais ça peut-être au final, il a raison. Hein. En tout cas, c'est comme ça qu'il fait.
En tout cas, hier, il a de regarder ailleurs parce que si Paris termine mieux ses actions, ça peut finir à 4 ou 5-0.
Exactement.
Bon, et quand l'arbitre siffle pas contre toi, c'est souvent parce que t'as le ballon dans les pieds et que les autres courent derrière.
Et quand tu fais des fautes en général, c'est que t'as pas le ballon dans les pieds. Exactement.
Zanov, t'as raison, il mérite le rouge direct. Je pense que Danso, il pense aussi au fait que avant que l'arbitre revienne là-dessus,
Marquinhos
s'est fait un petit peu justice lui-même, mais bon, c'est une action qui n'existe pas puisque le jeu.
Elle aurait pas dû continuer cette action, voilà, exactement.
Ok, deuxième information dans le zapping des GG à vous donner, c'est Diego Simeone qui ne comprend pas que l'on puisse jouer ce week-end en Espagne après le drame évidemment qui a touché Valence. On s'en fout, on s'en fout pas. Bon, difficile de vous poser la question, j'imagine que ça intéresse tout le monde.
On s'en fout pas. Mm-hmm.
On peut pas s'en foutre.
Ok, Simon Dutin.
On s'en fout pas.
Diego Simeone a donc fait part de son incompréhension hier après le maintien de la 12e journée de Ligue 1, alors que l'Espagne, vous le savez donc, est endeuillée par les inondations du siècle, hein, c'est comme ça qu'on peut les appeler, qui se sont abattues cette semaine dans la région de Valence. Voici ce qu'il a déclaré en conférence de presse. Ça n'a aucun sens de jouer demain, c'est très dur tout ce qui est en train de se passer. Il y a, on me dit qu'on a le son. Oh, attendez, c'est l'émission à l'américaine, si on a le son, on écoute tout de suite, ça sera mieux que ma voix.
No, está claro de que no tiene ningún sentido. Lo que está pasando es algo durísimo.
Ça n'a absolument aucun sens de jouer demain. C'est très dur tout ce qui est en train de se passer. C'est vraiment émouvant de voir comment les gens s'entraident avec une pelle ou ce qu'ils ont sous la main. C'est très triste pour tout le monde, mais on nous a dit de continuer à jouer, alors voilà, on va sûrement continuer.
À noter toutefois que la rencontre Valence-Real Madrid, elle, n'aura pas lieu, notamment. Marie Martineau.
C'est toujours compliqué de maintenir des événements sportifs qui sont censés être dans la joie quand tu es fait face à un événement tragique. Pour autant, moi, j'accroche assez avec la façon de voir les choses des Anglo-Saxons et des Américains qui ont plutôt une tendance à vouloir célébrer la vie et à faire pas la fête, mais à communier dans la joie par rapport à ce que les gens décédés ont pu faire. Ça, c'est quand il s'agit d'un deuil d'une personne. Et je pense que ça peut être chouette aussi de se servir du sport comme d'un truc qui nous rassemble pour rebondir positivement.
Enfin, le show must go on, quand t'as perdu tes cousins dans l'inondation.
Je sais,
si,
mais Simon, tu es symptomatique de la façon très latine qu'on a de voir la mort et les difficultés de la vie.
Pour respecter, tu vois, ce serait d'ici une dizaine de jours, une quinzaine de jours, ça va reprendre. Et justement, il y aura des hommages dans les stades. Bon, ils n'ont pas encore nettoyé les voitures qui jonchent les rues. Je trouve ça compliqué de vendre aux gens. Venez vous détendre, venez penser à autre chose.
C'est pas comme ça que le président de la Ligue l'a vendu. La Liga espagnole fait un très bon boulot en général. Et
non,
le président,
ils ont été très dignes.
Il a plutôt, entre guillemets, vendu, c'est pas le bon terme d'ailleurs, vendu. Il a plutôt dit il faut que ça joue parce que tout le monde est au travail et nous aussi, on doit être au travail. Et puis parce que ça permettra de mettre l'accent sur la catastrophe et ils vont recueillir des dons à l'occasion des matchs. Donc je trouve que la position de la Liga espagnole peut se défendre. Malgré tout, j'étais dans le couloir tout à l'heure et je regarde des BFM, puisqu'on est forcément pas loin, on sort quand même des morts, des décombres, toutes les 10 minutes actuellement en Espagne. Et c'est ça peut-être quand même qui, moi, me donne un peu... C'est-à-dire que peut-être qu'une semaine... on n'est pas en train de revenir sur retour à la vie, on est aujourd'hui dans la catastrophe, puisque le nombre de morts, on ne peut pas le calculer, et il augmente pratiquement toutes les minutes. Donc voilà, peut-être que ce week-end...
C'est un peu dur,
je trouve.
Mais j'ai en mémoire tout de même qu'après les attentats, les différents attentats malheureusement qui ont touché la France, on avait dit ça, on continue le sport,
on
il faut
pas
qu'on
après,
arrive à...
Ce que je veux dire, on n'est pas après, on est encore dedans. C'est ça que je veux dire, c'est qu'on est en train de découvrir l'ampleur de la catastrophe. C'est pas terminé. C'est ça, moi je trouve, c'est le point de nuance. Sur le reste, je suis assez d'accord. Je pense qu'effectivement, le sport... doit continuer. Mais là, c'est en ce moment que ça se joue. Pendant les matchs, il y aura la découverte de nouveaux cadavres.
Évidemment que j'atteste tout ce que vous dites. Et je pense qu'en plus, le match, évidemment de Valence va être reporté. Et je pense que rien que pour cela et pour tout ce qui va se passer jusque-là, il est nécessaire parfois de savoir s'arrêter quand même. Là, on est, comme tu le dis, parfois en plein dedans. Alors effectivement, les hommages vont arriver, mais dans cette temporalité-là où on sait que ça traîne, les habitants de la région et les Espagnols s'élèvent déjà contre l'État pour protester contre cet état de fait, cet état des lieux qui est en train de se passer. Et comme tu le dis, Cyril, on est en train de découvrir malheureusement encore des corps toutes les 5 à 10 minutes. Je pense qu'il faut juste être raisonnable et se dire qu'on a le temps de faire autre chose et on jouera au football et on ira se divertir plus tard, on rendra hommage plus tard. On n'est pas dans l'hommage, on est dans la découverte. On n'a pas encore découvert tous les corps. Donc effectivement, c'est
dans
beaucoup
la polémique.
Plus sage. Rejoins totalement Simeone qui dit que c'est à peu près inacceptable de jouer ce week-end dans ce championnat-là.
Je rappelle que dans 2 semaines devait avoir lieu le Grand Prix MotoGP de Valence, que ce Grand Prix avait été maintenu dans un premier temps par la Fédération Internationale, que les pilotes sont montés au front pour dire nous, on va pas aller là-bas pour aller faire du spectacle. Et donc finalement, il a été annulé vendredi, même si c'était dans 2 semaines. Et forcément, la vision est un peu plus lointaine, mais ce Grand Prix de Valence a donc été annulé, en tout cas repoussé à une date ultérieure. 9h55, on se retrouve dans quelques instants pour la suite des Grandes Gueules du Sport. Nous allons vous parler des élections américaines et de ces sportifs qui s'engage, je vous l'ai dit, un bon mot, tout de suite, l'accord musical derrière. Et puis on parlera d'Hugo Humbert. Vous avez quoi sur Hugo Humbert, les copains, en régie? Non, là vous êtes pris de court, vous avez rien. Hugo Humbert s'est qualifié pour sa première finale en Masters 1000. Peut-il devenir la nouvelle star du tennis français? Et on écoutera attentivement son adversaire, Karen Khachanov, qui n'a pas du tout apprécié son attitude à la fin de la rencontre. Est-ce que ça peut justement nourrir quelque chose, une aspérité peut-être différente pour ce joueur de tennis français? A tout de suite sur RMC avec un programme dantesque dans les GG du sport.
RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.